Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, de quoi parlerons-nous au réveillon ? Si l'on y prête attention, notre quotidien est empli de ces moments embarrassants qui nous obligent à combler le vide par la première banalité. À la machine à café avec ses collègues, sur le palier de l'immeuble avec sa voisine et même avec le boulanger. Or, si le commentaire sur la météo peut sauver la situation dans l'ascenseur, il permet rarement de tenir tout un dîner. La période des fêtes est justement propice aux repas de famille et autres réunions entre amis, une source d'angoisse pour beaucoup. Il est vrai que l'air du temps ne fournit guère de sujets plaisants ou consensuels. Faire le bilan de l'année pourrait s'avérer périlleux si vous voulez passer une bonne soirée. Au XVIIIe siècle pourtant, la conversation était un véritable art de vivre en France. Madame de Staël en parle comme d'une certaine manière d'agir les uns sur les autres, de se faire plaisir réciproquement, de jouir de soi-même, d'être applaudi sans travail. Alors pourquoi paraît-elle si fastidieuse à l'homme moderne ? De quoi pourrons-nous bien deviser sans se fâcher ni s'ennuyer ? De quoi parlerons-nous au réveillon ? C'est notre sujet du jour. Et c'est une conversation avec quatre invités. Ce soir, François Flahaut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et anthropologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez participé à l'ouvrage « La conversation en art de l'instant », c'était aux éditions Autrement en 1999. Notre deuxième invité est au téléphone depuis Toulouse, Élise Costa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et blogueuse. Troisième invité au téléphone également, Emmanuel Godot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et essayiste, vous êtes auteur de deux ouvrages sur notre sujet de ce soir. Alors il y a Histoire de la conversation aux éditions Classique Garnier et La conversation, une utopie de l'éphémère au PUF. Et notre quatrième invité, Xavier Delaporte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef à Rue 89, ancien producteur à France Culture, et toujours chroniqueur. Vous assurez notamment le Monde selon dans la matinale le mercredi, et c'est aux alentours de 7h18, pour être précis.
19, si on veut vraiment être précis.
Si le matinalier n'est pas en retard. Alors, Élise Costa, vous aviez écrit un article pour l'Obs, c'était en juillet 2012, qui s'intitulait « Comment éviter les discussions sur la pluie et le beau temps ?» Je ne vous demande donc pas s'il fait beau à Toulouse.
De toute façon, il fait toujours beau à Toulouse, donc comme ça on passe le sujet. C'est comme les Anglais, je pense qu'ils, je ne sais pas s'ils parlent beaucoup du temps, parce que chez eux, il pleut tout le temps. Donc voilà, oui, c'est vrai, j'avais écrit cet article il y a 3 ans. Et j'avais effectivement émis diverses possibilités. Alors après, je ne suis pas contre l'art de dire des banalités, parce que déjà, c'est un art.
Mais qu'est-ce qui, à l'époque, vous faisait peur, peut-être, dans une conversation sur le temps qu'il fait ?
Ce qui me faisait peur, c'est qu'on en vienne à s'arrêter à ça. C'est-à-dire que, voilà, on dit des banalités et puis la conversation s'arrête. C'est un peu ce qui me gênait. Et ce qui me gênait aussi, c'est que, généralement, moi, de par mon métier, donc ça me gêne pas de poser des questions et même j'aime ça, mais souvent, en fait, on pose des questions aux gens, on leur demande ce qu'ils font dans la vie et tout ça, et il n'y a pas de retour. Ce qui me fait dire aussi que, justement, c'est...
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de relation, en fait ?
Non, c'était dans un seul sens. Et bon, à un moment, voilà, ça, je me disais, mince, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on en arrive à ça ? Et en fait, je pense que vraiment, c'est parce qu'il faut être entraîné.
Xavier Delaporte parlait de la pluie et du beau temps. C'est aussi quelque chose que vous craignez quand vous êtes coincé dans une situation avec des gens que vous connaissez, mais qui ne sont pas non plus des proches. Vous ne pouvez pas parler de choses intimes.
Pas du tout. Pour deux raisons. C'est d'abord que je trouve que c'est important de parler de la pluie et du beau temps. Moi, je pense toujours à... J'avais un grand-père agriculteur et qui tenait un carnet journalier. Et sur son carnet journalier, il y avait les tâches qu'il avait effectuées, mais il y avait principalement des données météorologiques. La pluie, le beau temps, c'est pas simplement un sujet comme ça, c'est une chose importante. Hein. Alors évidemment, si ça s'en tient à ça, c'est un peu fatigant. Ensuite, pour répondre à votre question, en fait, ce qui est, la conversation, c'est des couches. Enfin, c'est-à-dire que si on se demande si de quoi on va parler au réveillon cette année par exemple, on va produire des conversations qui sont les conversations habituelles et compliquées, comme vous le dites, des réunions de famille, etc. Mais je pense que ce qu'on va faire de plus que ce qu'on faisait il y a quelques années ou il y a quelques siècles, c'est que on va tenir à la fois des conversations orales et puis des couches de conversations. Voilà, c'est une chose. Si on se demande de quoi on va parler, c'est qu'on va parler de plusieurs choses en même temps à plusieurs personnes dans des lieux séparés. Voilà, je pense que c'est un petit tournant dans l'art de la conversation contemporain.
François Flau, je rappelle que vous êtes anthropologue. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une sorte de règle implicite pour l'homme moderne qui veut que, quand on croise quelqu'un dans un ascenseur, on ne va pas lui demander ce qu'il pense de la théorie du genre des derniers commentaires sur la politique. Ouais. Mais on va plutôt dire, il faisait froid ce matin.
Oui, on cherche le minimum de dénominateur commun. Et par exemple, l'autre jour, le lendemain de Noël, je passe à Monoprix et j'achète un truc. Et puis, je passe devant la caissière. Et puis, comme ça, je lui dis, alors, vous avez passé un bon Noël? Elle me répond, ouais. Alors, je lui dis, vous avez pas l'air très... Elle me dit, finalement, oui, j'étais toute seule. Et alors là, je me suis dit, mais dans le fond, la banalité peut déboucher, peut être une porte qui s'ouvre sur quelque chose d'autre. C'est là, cette fille... Mais pourquoi elle était seule, etc. Donc moi, il y a eu plein de questions pour moi après. Je me suis dit, alors, est-ce que j'aurai l'occasion de creuser la question en la revoyant, ou est-ce... Voilà. Donc les banalités, ça peut être la porte d'entrée pour aller vers autre chose.
En même temps, là, vous êtes tombé sur quelque chose de plutôt douloureux dans ce que vous racontez.
Oui, là, ça m'a fait de la peine pour elle. Ça m'a fait de la peine, effectivement. Elle n'a pas eu de conversation pendant sa soirée de Noël, quoi.
Voire de gênant, peut-être, pour vous, en réveillant quelque chose de douloureux.
Non, ce qui m'a intéressé, c'est souvent quand je... Dans des gens que je connais pas comme ça, là, je la vois assez souvent parce que j'achète des trucs là, mais je la connais pas. Bon, et savoir qu'il y a une vie réelle derrière, ça, c'est, je trouve ça intéressant. Et donc, ça m'a intrigué. J'étais plutôt, intéressé, quoi. De voir qu'elle avait une vraie vie derrière et une vie pas simplement lisse.
Est-ce que c'est pas rompre une convention de la conversation que de répondre sérieusement à une question comme ça va, qui n'appelle pas forcément une réponse
sincère. Ce qui est intéressant, justement, dans le sens de ce que vous dites, c'est que la caissière, elle a répondu assez formellement. C'est-à-dire, elle a dit oui, j'ai passé un bon Noël. Mais je voyais sur sa figure que c'était justement une parole de circonstance. Elle n'avait pas de raison de se confier à moi. C'est moi qui, dans le fond, qui ai insisté en disant « Mais vous n'avez pas l'air si réjoui que ça. » Bon.
Alors, pour finir notre tour de table, Emmanuel Godot, trouver le plus petit dénominateur commun entre nous, c'est ça la base de l'art de la conversation?
C'est la base de l'art de la conversation et dans l'exemple qui vient d'être cité, en effet, une fonctionnalité, un masque social tout à coup se laisse entrevoir et par un point de départ effectivement insignifiant, de la signification arrive, un événement a lieu et c'est ce que nous cherchons dans nos conversations.
Et si beaucoup disent subir des conversations de banalité, c'est ce qu'évoquait Élise Costa dans son article, est-ce que ça veut dire qu'on a peut-être un peu perdu ou qu'on n'a pas su renouveler les codes qui nous permettent normalement de briser la glace, de rentrer en relation?
Les codes sont... Je crois que les codes sont à peu près à toutes les époques en réalité les mêmes. À l'origine, c'est un art aristocratique, la conversation, donc elle s'est démocratisée, si on peut dire, et donc il n'y a pas à regretter peut-être un âge d'or de la conversation. Enfin, moi, je suis pas du tout nostalgique des salons, etc. C'était des hauts lieux culturels. Mais finalement, nous restons avec les mêmes attentes d'une parole qui se distribue, d'un visage qui apparaît, et effectivement d'une banalité qui est aussi notre condition, mais qui est une voie d'accès à l'essentiel.
Le réchauffement de la planète, Réchauffement de la planète égale pétrole, qui dit pétrole dit nucléaire, et surtout tu ne parles pas de ça, mon père, je te connais, tu vas l'énerver.
Bon bah je sais pas moi, qu'est-ce qui me reste? Les bouchons dans Paris?
Tu rigoles ou quoi? Bouchons dans Paris égale taxi, taxi égale le grand-père égale Auschwitz, et surtout je ne veux aucune allusion à ce sujet.
Non mais attends, en fait on peut parler de rien avec tes parents?
Exactement, moi ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien.
C'est un extrait du film Le nom des gens de Michel Leclerc qui est sorti en 2010, un dialogue entre Sarah Forestier et Jacques Gamblin. Alors de quoi allons-nous parler? De quoi faut-il parler? C'est une question que se posait déjà Madame Madeleine de Scudéry, pardon, femme de lettres française. C'était en 1680. Vous la citez en exergue de votre ouvrage, Emmanuel Godeau. Donc ce n'est pas une angoisse spécifique de notre temps de savoir de quoi parler, Emmanuel Godeau.
Non, dans les traités classiques, par exemple, en arriver à parler des enfants, par exemple, c'est une catastrophe dans certains traités de conversation. C'est
pourquoi
on n'a plus rien à se dire, parce que là, on entre dans le privé, dans ce qu'il a de plus justement de plus insignifiant pour l'homme classique. Donc voilà, on a toujours cherché effectivement des sujets qui soient à la fois suffisamment léger, comme disait votre interlocuteur, il y a un vœu de légèreté et presque de désinvolture dans la conversation, mais la gravité peut s'immiscer, hein, nous en avons besoin aussi.
Élise Costa, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est peut-être l'exact inverse de ce que vous développez dans votre article, où vous cherchez justement désespérément des sujets qui ne parlent pas de rien.
Oui, c'est vrai, mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un art, donc il faut il faut réussir à trouver. Il faut d'abord faire parler l'autre. Ça, c'est une condition, c'est la condition numéro un. Et à partir de là, se raccrocher à divers éléments. De toute façon, je trouve que quand quelqu'un parle de soi, de ce qu'il fait dans la vie, etc., c'est beaucoup plus facile du coup d'avoir des thèmes qui ressortent. Donc ouais, ça serait peut-être mon premier conseil, si jamais vous ne savez pas de quoi parler pendant le réveillon. C'est ça.
D'accord. François Flahaut, l'échange de banalité, des fois, effectivement, elle n'a pas forcément d'objectif. Est-ce que justement, ça ne traduit pas aussi un besoin d'avoir une activité qui ne rapporte rien, une activité où on a une part de temps perdu, on va dire, dans un monde fait de rentabilité, de course, sans vouloir dire une banalité, justement?
Il y a eu un anthropologue dans les années 30, je crois, Malinowski, qui, en observant les indigènes des îles Trobriand, il s'est rendu compte qu'ils parlaient comme ça, pour il n'y avait aucune information nouvelle, en fait. Ils parlaient de trucs qu'ils connaissaient déjà, mais c'était, voilà, ils sont là ensemble, et ben ils parlent, quoi. Et ce qui est curieux, c'est que ça lui est apparu comme une découverte, comme si on faisait pas la même chose en Europe depuis toujours. C'est-à-dire, on parle parce que c'est une manière d'être ensemble. De même que partager un repas, c'est une manière d'être ensemble. Et donc, parler pour ne rien dire, ça veut pas dire forcément que c'est vide, que c'est creux, que c'est donc méprisable. Ça peut être ou raconter des conneries, etc. C'est une manière d'être à plusieurs. Et ça, c'est la vie. C'est la vie. Hein. Les bébés avec leurs parents, les bébés, ils ont des interactions à propos de rien et de tout, n'importe quoi. Mais l'important, c'est qu'il y ait une interaction. Donc, c'est la vie. Alors, à partir de là, il y a le fait que pour les êtres humains, contrairement à ce qui se passe pour les chimpanzés, il faut quand même parler de quelque chose. Alors que les chimpanzés, ils interagissent pour être ensemble. Mais ils n'ont pas ce souci de conversation, puisqu'ils n'ont pas de langage qui leur permette de parler de quoi que ce soit. Donc, ils s'épouillent, ils se caressent, et ils sont bien contents d'être ensemble. Mais ils n'ont pas ce souci. Alors que nous, souvent on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Souvent, on voit quelqu'un, on dit, ah, ben, il est sympa, j'aimerais bien parler avec cette personne, là, elle a une bonne tête. Oui, alors, mais qu'est-ce que je vais, voyons, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je me souviens d'un dessin humoristique d'un humoriste des années 50 qui s'appelait Bosque et qui faisait des dessins dans Paris Match. Alors, il imagine un type qui est sur la plage et puis il voit une fille, il veut la draguer. Alors, il se dit, ah, je pourrais lui dire, alors, vous êtes en vacances? Il dit, ah non, c'est trop con, je peux pas dire ça. Puis, alors, il essaie différents trucs. Et finalement, le temps qu'il réfléchisse à ce qu'il pourrait lui dire, il y a quelqu'un d'autre, un autre gars qui parle à la fille, qui lui dit « Alors, on est en vacances ?» Et donc, le contact est établi à partir de trois fois rien, mais l'important, c'est d'établir le contact, et puis ensuite, on verra.
Vous avez de la porte, il faut se décentrer pour s'apercevoir en fait, du côté essentiel des conversations qui, pour d'autres, peuvent apparaître comme du temps perdu.
Je suis toujours étonné par les gens qui n'aiment pas converser, ou qui rompent la conversation, ou qui la pourrissent. Effectivement, ça va au-delà de pas maîtriser un art conversationnel. Enfin, c'est un rapport au monde qui me semble assez étrange. C'est aussi intéressant d'observer comment les conversations sont aussi des objets culturels. Enfin, qu'on ne converse pas exactement de la même manière, on n'entre pas dans la même manière dans la conversation, on ne glisse pas d'un sujet à l'autre exactement de la même manière, selon évidemment les milieux sociaux, selon évidemment les pays quand on maîtrise relativement bien la langue, etc. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis effectivement, après, je pense que la conversation, comme plein d'autres choses dans la vie, c'est une pratique dans laquelle on s'aguerrit, et que quelque chose qui peut être complètement terrifiant, comme par exemple se retrouver, parce qu'il y a des situations conversationnelles qui sont complexes, par exemple quand vous vous trouvez dans un mariage, donc vous allez être attablé pendant 3 heures entre deux personnes que vous connaissez très peu, qui sont des situations, par exemple, c'est rigolo, en Angleterre, je crois, dans les tables de professeurs dans les universités, vous connaissez ça mieux que moi, vous devez à chaque plat changer de partenaire de conversation. C'est-à-dire, vous êtes à droite au premier plat, vous êtes à gauche au deuxième.
Comme une sorte de speed dating de l'universitaire.
Bon, et voilà, mais c'est codifié par ça. Mais bon, voilà, pour reprendre la situation d'un mariage, par exemple, c'est vrai que c'est une situation conversationnelle qui est très complexe. Vous êtes placé par des gens qui ont pensé que vous aviez peut-être un rapport avec des personnes que vous connaissez souvent pas, et ça va durer pendant 3-4 heures, quoi, avant que vous puissiez vous lever, etc. Bon, et ça, moi, j'aurais tendance à faire comme Lise Costa, c'est-à-dire que je mitraille de questions, mais ça, je pense, c'est un réflexe journalistique, quoi. C'est-à-dire que je mitraille de questions, mais aussi, c'est très compliqué de mitrailler de questions. C'est quand on trouve pas les sujets, voilà, on énumère les sujets, et puis quand on trouve pas de sujet, du coup, on en vient à la question. Et la question, c'est très compliqué parce que jusqu'où vous allez dans un rapport comme ça, conversationnel, avec quelqu'un que vous connaissez pas, une table de mariage, voilà.
Et accepter une part de vide, c'est pas acceptable? Accepter une part de silence, peut-être.
Ouais, par exemple, là, regardez, j'ai ouvert la bouche pendant 2 secondes, vous l'avez comblé.
Alors, on a peut-être une règle particulière à la radio de peur
qui est
du
quelques
silence.
Secondes, il y a la sirène qui va se détendre, on va mettre de la musique pour. Mais de fait, non, c'est compliqué le silence. Le silence, en fait, paradoxalement, vous l'acceptez avec des gens avec lesquels vous avez normalement plein de sujets.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Mais paradoxalement, avec quelqu'un avec lequel c'est l'intimité qui crée la possibilité du silence. C'est une sorte de...
oui.
Emmanuel Godot, sur ces questions?
Dans le silence, on peut converser avec bien d'autres éléments. C'est ça qui est intéressant dans l'art de la conversation. Il y a la parole, mais il y a aussi le visage, la physionomie, les gestes de la main, les regards. Tout ça converse en réalité. On converse avec l'ensemble du corps. Donc, effectivement, ne pas avoir peur des silences dans la mesure où ils sont un moyen de prolonger la conversation. Et on insiste beaucoup sur les sujets de conversation, mais il y a surtout la manière. Un sujet très banal, mais avec une manière de tendre la parole à l'autre, d'entrelacer justement de l'écoute, comme vous le dites très justement. Tous les traités classiques d'ailleurs le disent, quelqu'un qui a un bon devisant est d'abord quelqu'un qui sait écouter. C'est la base de la conversation, en effet. Et donc, il y a, voilà, tout ça, c'est un art, en réalité.
Alors, vous citez Emmanuel Godot, Théodore Zeldin, le philosophe britannique qui a beaucoup étudié la France et les passions françaises. Et justement, à propos de la conversation, il dit la gaieté est un des grands traits de la francité, de l'identité française. Un certain goût du rire, une certaine franchise, un certain naturel sont des choses qui font partie de la conversation. Excusez-moi, ça, cette citation, c'était vous qui l'expliquiez, mais en lien avec Théodore Zeldin. Donc, il y a une spécificité française dans la conversation, c'est-à-dire quand dans des pays anglo-saxons, par exemple, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas ce même rituel.
Traditionnellement, effectivement, la notion de gaieté, donc on est peut-être, je ne sais pas si on la perd, parce qu'on parlait de rire tout à l'heure, en effet, la dérision, le fait de ne pas se prendre au sérieux, de ponctuer les conversations les plus graves d'une pirouette, ça c'est effectivement l'esprit français, une forme de désinvolture, mais que Castiglione a théorisé au XVIe siècle sous la dénomination de sprezzatura, par exemple, une forme de désinvolture dans la manière de parler. Et le naturel, c'est au fond l'art que l'on cache.
François Flahaut, je vous vois hocher la tête.
Oui, oui, oui. En vous écoutant, je pensais à une conversation que j'ai eue avec des universitaires américains. Qui était en France et qui disait c'est quand même curieux quand on voit des collègues français, ils nous posent pas de questions et donc c'est pas très facile la conversation, on se connaît pas encore, on aimerait entrer en contact et puis ils ne nous posent pas de questions et eux les Américains effectivement ont cette propension à aller au-devant de l'autre et de questionner. Et c'est ce que vous disiez, Xavier Delaporte, savoir poser des questions et savoir écouter. C'est deux choses, je pense, vraiment fondamentales, oui.
Et Élise Costa, vous préconisiez... vous voulez réagir peut-être ?
Non, parce qu'en fait, oui, c'est vrai que les Américains sont très forts, moi, je trouve, pour ça, mais c'est pas tant au niveau des questions qu'ils vont trouver un élément dans une personne et ça va être toujours positif. Et pour pouvoir rebondir là-dessus. Par exemple, Samy, vous croisez quelqu'un dans la rue, Samy veut vous parler, il va dire « Ah, j'adore ton t-shirt ». Voilà, ce qu'on ferait... Chez nous, par exemple, on fait jamais ça. Ça nous semblerait un peu intrusif ou un peu bizarre, quoi.
Justement, c'est que il faut... Les règles de la conversation sont extrêmement ritualisées, codifiées en fonction des cultures. Vous disiez, pourquoi pas aller directement à l'essentiel, par exemple, pour ou contre la réouverture des maisons closes en guise d'introduction à une conversation. C'est ce que vous suggériez, Élise Costa. C'est une manière peut-être de bousculer les règles et puis de trouver peut-être une autre manière d'être en relation avec les gens en bousculant nos rituels habituels.
Oui, mais en plus, le soir du réveillon, je trouve que c'est plus facile parce que, bon, l'alcool aidant, on peut... Bon, il faut commencer de suite à l'apéro, mais après, la banalité, elle est aussi importante parce que ça permet de mettre les gens à l'aise. Donc, on peut commencer par des petites banalités et après, pourquoi pas, effectivement, rentrer dans le vif du sujet. Moi, je trouve ça terrible, par exemple, quand ce sont des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et en France, on a vraiment ces questions qui reviennent, c'est vraiment qu'est-ce que tu deviens ou qu'est-ce que tu racontes de beau. Et ces questions, elles sont paralysantes parce que par où commencer ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc le mieux, ouais, je pense que c'est d'aborder frontalement les sujets, même s'ils fâchent. Et voilà, et après de laisser faire le débat ou la conversation autour de ça, quoi.
Faire la route tout seul, vous connaissez, non ? C'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec Blablacar. C'est bien plus sympa. À chaque fois qu'Alex part en week-end, il propose ses places libres sur Blablacar. Julie est étudiante, Vincent est architecte, Yves est prof de maths. Ils souhaitent tous faire le même trajet. Sur Blablacar, ils trouvent rapidement des conducteurs. Pendant le trajet, Alex leur fait découvrir ses musiques préférées. Julie raconte son dernier voyage et Vincent partage son gâteau au chocolat. Yves en profite pour faire une petite sieste.
C'est un extrait d'une publicité pour le site de covoiturage. Vous l'avez reconnu, Blablacar. Et Blablacar, justement, ça se nomme pas comme ça par hasard. S'il y a une promesse d'un espace de convivialité devenu un argument marketing, c'est bien qu'il y a une demande forte, Xavier Delaporte.
Je sais pas si dans ce cas-là, c'est vraiment, enfin, si, c'est-à-dire que c'est le motif de l'économie collaborative. C'est en gros, on vous enrobe un état post-capitaliste, parce que l'économie collaborative, une partie de l'économie collaborative, c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer de pire en termes d'aboutissement du néolibéralisme. Enfin, j'emploie des gros mots, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui sont sous-traités, qui sont sous-payés pour des tâches complètement précaires avec des statuts complètement horribles. Voilà.
Mais
tout ça enrobé dans l'idée d'une convivialité, effectivement. Mmh. Et effectivement, un des arguments de la convivialité, c'est la rencontre, c'est l'interpersonnel, c'est qu'on va parler, etc. Bon, alors cela dit, il faut pas non plus tout jeter, parce qu'effectivement, le covoiturage crée ce dont je parlais tout à l'heure. Je l'ai dit pour le mariage, mais 400 kilomètres en voiture, quand vous mettez quatre personnes qui se connaissent pas ou cinq et qui vont partager comme ça, effectivement, tout un temps. Alors c'est intéressant de voir, parce que quand vous regardez les récits, dans la manière, parce que vous savez, les gens sont notés dans le covoiturage, hein, dans les conducteurs, ils sont évalués par les passagers, tout le monde s'évalue en fait. Donc il faut à la fois être bon, ce qui est rigolo, c'est que c'est Blablacar, d'une certaine manière, réinvestit un art de la conversation, puisque parmi les critères d'évaluation du bon passager ou du bon conducteur, etc., il y a c'est mener ou pas une conversation. Enfin, c'est-à-dire, voilà, les gens agréables personnes, vous regardez sur les sites, sur toute cette liste-là, vous voyez ça. Ah, on discute bien avec cette personne, etc. Bon, alors et après, vous avez aussi des gens qui sont fustigés parce qu'ils vont utiliser Blablacar, donc le car de la voie du blabla, la voiture du blabla, et ils vont se mettre dans un coin avec un des écouteurs, etc. Donc effectivement, il y a la recréation d'une sorte de conversation sous contrainte, mais bon, tout ça est quand même, je pense, à la fois est important pour ceux qui font le voyage, mais qui est effectivement, comme vous l'avez dit d'emblée, un argument en fait enrobant d'une économie qui n'a pas comme but de faire se rencontrer les gens.
Emmanuel ouais. Godot, une réaction à cet extrait de Blablacar.
Écoutez, moi je vois juste le côté ambulatoire, si je puis dire. Là, c'est la conversation avec le huis clos, effectivement, et le mouvement. Je crois que les conversations en mouvement sont très intéressantes. Alors, ça peut devenir un enfer si évidemment le huis clos se révèle catastrophique, ce qui est possible. Mais ce qui m'intéresse dans ce cas de figure, c'est, je pense qu'on ne converse pas de la même manière. Quand on regarde dans le même sens, en l'occurrence, le sens de la route, on peut l'espérer. Et donc, je crois qu'il y a une stimulation par le mouvement. Voilà, c'est ça que je retiendrai là dans ces quelques exemples que je peux avoir autour de moi de gens qui pratiquent Blablacar.
Alors, c'est peut-être pas dans Blablacar qu'on retrouve l'héritage dont on a parlé tout à l'heure des salons littéraires, hein, du 16e, du 17e, du 18e siècle. Justement, François Flahaut, on les trouve où les héritages de ces lieux où on avait à la fois eu un souci de la forme, hein, de la oui. conversation, mais aussi du fond. Oui. L'historien des idées peut peut-être faire oui. une histoire d'une époque
oui,
grâce,
non, bah,
grâce
écoutez,
aux conversations.
C'est pas si compliqué que ça. C'est quand on évoque un repas pris en commun, est-ce que c'est un repas entre amis? Est-ce que c'est un repas entre personnes qui doivent dîner ensemble, mais qui n'ont pas forcément spontanément envie de dîner ensemble? C'est vraiment la grande différence. Mais quand on dîne entre amis, la conversation entre amis, en principe, là, tout est propice, à la fois pour rigoler et puis pour parler de soi, écouter l'autre, etc. Bon, c'est l'amitié sans conversation, c'est pas de l'amitié. Bon, en revanche, alors les repas de famille, oui, ça, c'est, pourquoi c'est problématique? Bah, parce que on se retrouve sous prétexte qu'on est né du même père ou de la même mère ou des deux à la fois, on se retrouve pour le dîner le réveillon. Bon, mais en fait, on a évolué peut-être de manière divergente. Et alors, il faut tâter le terrain, c'est des choses délicates, des sujets minés, etc. Là, bon, là, effectivement, c'est plus laborieux. Hein, ça peut être plus laborieux. Pas forcément, mais bon.
Ça, c'est un gigot.
Bah, qu'est-ce que tu crois ?
Alors, Jacques, tu disais la banlieue ?
Je dis pas la banlieue, mais un peu plus loin. Quand tu traverses, tu ne connais plus rien.
Ni personne.
C'était pourtant bien, ces petites maisons. On se croyait à la campagne. Assez merci.
En tout cas, c'est moi, Alex, c'est tour.
Ça dépend lesquels.
Ah, regarde, c'est vrai, il y a des tours qui sont belles.
Oui, mais en général, dans celle-là, il y a des bureaux.
Puis les autres, t'as qu'à voir les prix.
Ah, Julia, t'as pas notre couteau?
Non, ça va, ça.
Oui, il y en a un, sans manche là-dedans.
Sans manche,
non. Ça va, regarde. En tout cas, les gens qui habitaient là, ils se sont expulsés, eux. Sans histoire.
Dans les horloges?
Oui, dans des HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer.
Donc, à s'installer plus loin.
Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît.
Ou dans l'Ardèche.
Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux. En attendant qu'on les éjecte un peu plus loin.
C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter.
S'adapter, t'es très marrant, toi. Faut avoir les moyens de s'adapter.
Pierre.
Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un extrait du film Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet, sorti en 1974. C'est un extrait de la scène dite du gigot, où on voit effectivement progressivement un sujet, la banlieue, et puis voilà une ambiance très conviviale qui petit à petit se tend. Oui, évidemment, oui. À la fin de la scène, c'est l'engueulade finale. Un des personnages se lève et sort. Parler, c'est devenu pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir des sujets totalement anodins, des sujets où il ne va pas y avoir une ramification politique et puis les germes d'un conflit. Xavier Delaporte.
Je sais pas pourquoi serait tant changé que ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des sujets je sais pas ça si c'est vraiment le cas. Je suis pas sûr que ce soit. Enfin, il me semble qu'on retrouve exactement, avec des modalités peut-être différentes, des fonctions toujours un peu les mêmes dans des conversations. C'est-à-dire que vous avez, la personne qui prend tout au premier degré. Donc là, c'est celui qui essaye de ramener le sujet, là, il est super premier degré. Celui qui va systématiquement prendre tout à la rigolade. Celui qui va complètement parler à côté. La personne qui va ne jamais s'insérer dans la conversation, mais dire, tiens, est-ce que ça vous plaît le plat, le sel et le pain et ta serviette, etc. Donc, qui va, voilà. Et que j'ai l'impression que c'est au contraire, il y a une sorte de permanence de ces fonctions qui se reproduisent éternellement dans des conversations, oui. Voilà. François Flau.
Oui, ce que m'inspirait comme réflexion, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est que un piège qui fonctionne régulièrement dans les conversations, c'est que on peut avoir l'impression qu'on émet des idées et que donc on a des arguments pour ça et que les autres peuvent discuter ces arguments librement, etc. En réalité, les manières de penser font partie des manières d'être, et quand on croit toucher seulement à des idées, on touche à la manière d'être de la personne avec qui on parle. Et donc, la personne peut se hérisser, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on lui disait, mais tu es quelqu'un qui ne, à la limite, n'a pas de valeur à mes yeux, parce que, voilà, on voit que ça s'amorce dans la conversation qu'on vient d'entendre. On parle d'un sujet apparemment tiers, enfin, la banlieue, etc. Puis, on semble échanger des idées, mais en fait, derrière, il y a des manières d'être, et une manière d'être plutôt du gars conservateur d'un côté, de l'autre, plutôt le gars, on imagine, plutôt à gauche. Enfin, voilà.
Et donc, vous voulez dire, finalement, le sujet n'est qu'un prétexte à un conflit qui était de toute façon larvé et latent.
C'est le problème du langage humain, justement. Le problème du langage humain, c'est qu'à la fois, c'est un contact entre deux êtres, et donc soit une manière de confirmer l'existence de l'autre ou de l'infirmer, et en même temps c'est on parle de quelque chose, mais comment séparer les deux, c'est pas possible vraiment. Alors voilà, c'est compliqué, c'est délicat.
Une conversation qui termine en conflit, Emmanuel Godot, c'est une conversation qui a échoué.
Oui, bien sûr, parce que dans la conversation a pour visée la concorde et le bonheur. Donc,
on peut pas avoir un petit peu de clivage, un petit peu d'affrontement.
Ça peut être un aiguillon, bien entendu. Les conversations ne reposent pas nécessairement sur le consensus et sur une sorte de neutralisation des opinions, mais plutôt sur la construction d'un plan, on pourrait dire, commun. Par-delà nos désaccords, nous avons un terrain d'entente qui sera notre amitié, qui est notre relation familiale. Et donc on sait que là nous nous retrouvons. Et donc ça peut être un jeu d'ailleurs. On sait très bien que je pense à la manière dont Montaigne peut faire l'éloge des conversations. Il demande à ses amis de l'étrier. Il utilise ce terme-là. Il aime les conversations, on pourrait dire viriles, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets bien sûr. Mais l'essentiel c'est d'avoir un terrain d'entente.
Élise Costa, les limites de la conversation, c'est quand on arrive sur les idées reçues, les croyances, le ragot, la médisance. S'il fallait fixer des limites, on va dire, à la bienséance de la conversation.
Les limites, c'est vraiment... par exemple, il y a une phrase typique qui clôt tout débat, c'est vraiment... c'est la vie. Voilà.
C'est pas particulièrement méchant.
C'est pas méchant, mais... À partir de là, effectivement, on peut plus répondre puisque effectivement, puisque c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est pour ça que moi, typiquement, pour me nourrir et pour trouver des idées, chez le coiffeur, je trouve que parce que les coiffeurs sont vraiment très forts en banalité, parce que c'est un peu, enfin, ils sont un peu obligés, ils voient
un peu leur matière première quelque part.
Mais mine de rien, ils sont, enfin, ça demande un grand effort intellectuel et dire toute la journée. Ne parler que de banalité, au final, ils deviennent vraiment très forts et donc ils sont une source d'inspiration pour moi, ouais.
Est-ce que les conversations sont plus conflictuelles quand elles se transposent sur le numérique, Xavier Delaporte, que ce soit dans des commentaires qui se répondent les uns les autres après un article ou que ce soit sur Twitter, par exemple? Est-ce qu'il y a moins d'inhibition sur le numérique?
Pour une part, oui. Ça, vous retrouvez des codes conversationnels qui existent. Voilà, il y a des gens qui commencent quand ils arrivent sur Twitter, donc qui est un grand lieu de la conversation ou un lieu de la grande conversation, et ils disent bonjour Twitter. Voilà.
Donc ils reprennent un
donc,
code oral.
Donc ils reprennent des codes conversationnels de la conversation orale pour voilà. Après, évidemment, il y a des formes particulières qui sont, pour une part, ça peut se conjuguer via l'anonymat, mais pas forcément l'anonymat seulement, à une forme de violence. Bon, on en fait les preuves tous les jours, mais pas forcément. C'est pas toujours le cas. Après, il y a aussi le fait que la technique joue, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous conversez par chat sur des plateformes comme Gmail ou etc., vous avez des petits codes techniques qui font, par exemple, quand quelqu'un écrit, on le voit écrire avec les trois petits points qui s'affichent, qui correspond à rien dans ce que c'est qu'une conversation orale, puisque c'est l'attente. Ce serait comme quelqu'un qui ouvrirait la bouche face à vous et donc vous attendriez gentiment qu'il prononce sa phrase. Donc il y a des silences possibles. Bon, et ça, ça donne des choses conversationnelles très très drôles parce que avant qu'on affiche techniquement ces petits points, on savait pas que l'autre était en train de vous répondre. Donc en général, vous continuiez à écrire, ce qui fait que vous ouvriez deux ou trois sujets de conversation en même temps et l'autre vous répondait après en décalé à trois sujets. Et donc vous aviez avec une même personne par chat des couches de conversation comme ça, ce qui est impossible à faire à l'oral. Complètement impossible. J'ai vu une pièce de théâtre où on essaie de transposer à l'oral une conversation par chat. C'était extraordinairement drôle. C'était complètement becquetien. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Bon, voilà. Donc là, il y a des fonctionnalités techniques qui font qu'effectivement, la conversation numérique, elle n'est pas simplement plus violente. Elle est aussi juste différente. Elle est différente pour des trucs techniques. Et puis, elle est aussi différente parce qu'elle s'inscrit dans une temporalité longue. Enfin, on ne sait pas toujours, mais ça va être gardé. Un tweet, même si vous le retirez, il y aura toujours quelqu'un qui l'a inscrit. Dernière toute petite question.
Pas de conversation sans vraiment stimulante sans une pointe de séduction. François Flahaut.
Ah oui, mais ça dépend avec qui.
Séduction au sens large, hein, au sens intellectuel peut-être.
Oui, oui. Disons. Le désir de se montrer aimable, c'est, je pense,
Emmanuel Godot, on a un tout petit mot sur la question de la séduction.
Ah oui, il y a un érotisme fondamental de la conversation, effectivement, un désir de mettre en valeur le meilleur de soi-même, le meilleur de l'autre, et puis là, notre langue française.
Eh bien, une conversation à poursuivre sur notre page Du Grain à Moudre sur notre site franceculture.fr. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. François Flahaut, Élise Costa, Emmanuel Godot et Xavier Delaporte. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Kiran Gessel, Mathilde Barbier et Antoine Dulster, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son, Bruno Gagnère-Fontanil. Demain, où sont les nouveaux laboratoires du futur? En attendant les 19h sur France Culture, tout de suite c'est Ping Pong, Émilie Chaudet, François Angelier, c'est à vous, bonsoir.